Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast CEO mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun. Un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échecs. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans CEO, mais pas que. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hélène Pouly-Duquesne. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors tu es CEO de la maison de joaillerie Boucheron depuis 2015. Tu es née en région parisienne, tu as 52 ans, tu as deux enfants et tu es diplômée de l'ESSEC. Alors quel était ton rêve de petite fille? Tu termines aujourd'hui, tu es dans l'univers du luxe, du diamant et ton rêve de petite fille?
Alors mon rêve de petite fille n'a rien à voir avec les diamants et finalement le monde de la place Vendôme, puisque je rêvais d'être archéologue. Je passais mon temps à essayer de découvrir des trésors enfouis, à ramasser des cailloux, à les mettre dans des boîtes, à les cacher pour les générations futures, etc. J'avais une espèce de passion pour tout ce qui a de l'âge. Et en fait, j'ai retrouvé un sens dans tout ça, puisque je me suis dit que finalement, comme je suis devenue passionnée de pierres précieuses, j'ai une collection, je suis vraiment passionnée de gémologie. Finalement, les pierres sont aussi des trésors de la Terre qui étaient enfouis. Et donc, c'est probablement le lien avec mon rêve de petite fille d'être archéologue. Et pour l'anecdote, parce que j'ai une anecdote là-dessus, quand on a rénové la place Vendôme, l'hôtel de noces, j'étais tellement omnubilée par mes histoires de trésors que j'ai demandé à tous nos employés de rédiger sur un livre d'or des anecdotes qu'ils étaient en train de vivre. Et j'ai caché cette cassette dans l'immeuble. Donc, je suis la seule à savoir où elle est. Enfin, avec le monsieur qui l'a déposée avec moi. Incroyable. Voilà. Pour les générations futures, en me disant, les gens qui rénoveront dans 100 ans, 200 ans, à nouveau l'immeuble, ils retrouveront finalement l'histoire de ce que nous avons fait à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui te plaît, du coup? Parce que c'est vrai que la chasse au trésor, c'est quelque chose qui est assez universel. Mais toi, du coup, C'est quoi? C'est de découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert? C'est ça qui se cache derrière le mot trésor chez toi?
C'est de découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert ou alors qui a été laissé, parce qu'un trésor qui a été laissé par les générations d'avant. Donc je pense que c'est plus une fascination pour ce qui est historique et ce qui traverse le temps.
Alors tu as fait l'ESSEC et puis tout de suite après l'ESSEC, tu as rejoint LVMH. Pourquoi avoir voulu aller chez LVMH?
Alors, je suis rentrée effectivement directement chez LVMH parce que je voulais travailler dans le secteur du luxe depuis l'âge à peu près de 14 ans. Donc ça, pour le coup, c'est une passion
pourquoi
de jeunesse.
Pourquoi le luxe à 14 ans?
En fait, je suis une artiste contrariée et j'ai grandi dans une famille extrêmement traditionnelle, plutôt de l'élite intellectuelle, pas de l'élite financière, où la priorité est de faire de grandes études. Voilà, mon père polytechnicien, ma mère médecin. Et donc, je pense qu'en fait, j'étais une vraie créative, une vraie artiste, et qu'il était hors de question de en fait, pour, je pense que pour mes parents, l'art n'était pas un métier. Du coup, j'ai contourné ça en
faisant... voulu leur démontrer que voilà, c'était possible, c'est
exactement.
Ça
Exactement. Et j'ai contourné ça en faisant une grande école, comme ils le souhaitaient. Et dès que je suis sortie de cette école, j'ai foncé dans le luxe, puisque c'est un des seuls secteurs où, en fait, il y a une part artistique qui est gigantesque et qui m'a permis de nourrir la part artistique qui est en moi, en fait.
Et le luxe, pour toi, à cette époque, ça représentait quoi par rapport à ce que ça représente aujourd'hui?
Alors, le luxe, pour moi, à l'époque, c'était... c'était pas du tout un secteur. Là, si je parle plus professionnellement, c'était pas du tout un secteur à la mode. C'est-à-dire, quand je suis sortie de ma promo de l'ESSEC, tout le monde allait, je voulais faire du marketing... Tout le monde rentrait chez Procter & Gamble, chez L'Oréal, les grandes écoles de marketing. Et à aucun moment, les gens se précipitaient dans le luxe. J'ai démarré, d'ailleurs, je gagnais beaucoup moins que mes collègues qui sont rentrés dans la grande consommation. Mais pour moi, c'était un secteur... Je ne sais même pas si à l'époque, je savais que c'était un secteur d'avenir, mais c'était un secteur forcément de pérennité. puisque pour moi, le luxe, c'est ce qui dure pour l'éternité. Donc, je savais que c'était des choses qui duraient dans le temps.
Alors, tu as un parcours assez inspirant. Hein. Tu es passé par plusieurs maisons. Tu es allé chez Fred, puis ensuite chez Dior Parfum, ensuite la maison Cartier, où tu as d'ailleurs intégré le Comex en étant la seule femme. Et tu es restée 20 ans chez eux. Raconte-nous ces expériences.
Alors, en fait, je n'ai pas démarré chez Fred. C'est quand j'étais chez LVMH que j'ai participé à l'acquisition de Fred. Et donc, ça a été mes premiers pas à la découverte de la joaillerie. En fait, le premier plan stratégique de Fred, c'est moi qui l'ai écrit à l'époque. Et donc, ça m'a fait découvrir ce secteur-là. Les 4 ans que j'ai passés chez LVMH ont été extrêmement riches d'enseignements parce que, comme je travaillais à la holding, j'étais chef de cabinet du directeur général de l'époque. Ça m'a permis de connaître à peu près tous les secteurs. Donc, je passais de mission sur le champagne, les cosmétiques, la maroquinerie, la joaillerie. Et d'avoir une vision des marques et du secteur extrêmement économique que je n'aurais probablement pas eu si j'avais démarré directement dans une fonction marketing. Donc, ça a été extrêmement enrichissant. Ensuite, je suis partie chez Dior Parfum, puisqu'il fallait que j'apprenne un métier. Et là, j'ai eu l'humilité de redémarrer complètement à zéro, puisque j'avais passé 4 ans à la direction générale du groupe et j'ai redémarré chef de produit. En me disant, maintenant, il faut que je sache faire quelque chose de spécifique. Voilà, je suis restée 2 ans chez Dior Parfum. J'ai découvert que c'était confirmé, je suis une femme de produits. Je suis fan de produits.
Ça veut dire quoi, femme de produits ?
Femme de produits, ça veut dire quelqu'un qui est intéressé par l'objet en tant que tel. C'est-à-dire, à l'époque, je travaillais dans le maquillage. Je passais des heures à l'usine à, en fait, fabriquer des rouges à lèvres. J'étais fascinée par les pigments, etc. Donc, il y a quelque chose de très concret en moi qui fait que j'ai besoin d'un contact presque physique avec le produit. Donc ça a été le premier enseignement. Et j'ai décidé de rentrer chez Cartier, un peu sur un coup de tête, parce qu'en fait, on m'a chassée. Voilà. Donc, je suis rentrée chez Cartier et j'y ai passé 20 ans. Alors, j'ai encore redémarré à zéro, avec beaucoup d'humilité. Puisque à l'époque, la personne qui m'a embauchée, c'est Bernard Fornas. Et Bernard n'avait pas de poste à me proposer de chef de groupe. Parce que là, je me disais, ça fait 6 ans que je travaille. Il est temps que je passe à l'étape d'après. Et il m'a proposé un poste de chef de produit que j'ai gentiment refusé. Et Bernard Fornas m'a appelé, je m'en souviendrai toute ma vie, pour me dire, Hélène, chez Cartier, on fait sa carrière. Il faut venir. Et tu iras très vite, fais-toi confiance, on s'en fout du poste auquel tu rentres, ce qui est important, c'est de vivre cette aventure. Et en fait, je suis très entrepreneuriale et je me suis dit après tout, pourquoi pas. Et donc j'ai redémarré chef de produit, service après-vente et bracelet cuir.
Et pour terminer ?
Et pour terminer au Comex, en fait, mais très rapidement, puisqu'à 32 ans, j'ai pris la direction marketing de l'horlogerie, qui faisait à l'époque 60% du chiffre d'affaires de la maison. Et ensuite, j'ai eu la direction marketing monde de tous les produits en 2010, dont j'étais la seule femme au Comex de Cartier. Et effectivement, Bernard a eu raison de me faire venir, puisque ensuite, je suis allée très vite, ma carrière.
Quelles difficultés on rencontre quand on est une seule femme au Comex ? Il y a des atouts et des inconvénients ou pas ?
Alors,
Moi,
j'ai un parcours très particulier, puisque je sais, pour avoir discuté avec énormément de femmes, qu'elles ont vécu le plafond de verre, que c'est extrêmement douloureux, et je le comprends, mais je ne peux pas en témoigner, puisque moi, je ne l'ai jamais vécu. En fait, j'ai grandi dans un monde d'hommes, parce qu'en plus, à l'époque, au début, j'étais sur l'horlogerie, donc c'était, je passais toutes les semaines, au moins une journée à la Chaux-de-Fonds, un monde très, très masculin, très horloger. Et je ne me suis jamais sentie pas à ma place, ni pas acceptée, en fait. C'est très surprenant, mais c'est comme ça. J'ai été adoubée par des hommes. J'ai été promue par des hommes. Après mon premier congé maternité, j'ai été promue, en fait, en rentrant de mon congé maternité. Donc, j'ai jamais eu l'impression que le fait d'être une femme soit un obstacle. Et en revanche, j'ai eu l'impression qu'être une femme me permettait d'apporter une valeur ajoutée énorme.
Alors, quels sont tes conseils pour toutes ces femmes qui nous écoutent, qui effectivement rencontrent peut-être ou déjà rencontré ce plafond de verre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont tes conseils ?
Bah, moi, mes conseils, c'est de vraiment pas surjouer le fait d'être... pas surjouer le fait d'être une femme, de rester soi-même, de toujours être, de rester cohérent et de rester soi-même, de prouver ses capacités professionnelles, en fait, parce que je pense que les femmes ont une capacité à être perfectionniste qui est très élevée et que du coup, et à mettre de la structure, à mettre aussi, à apporter de l'empathie et de valoriser toutes ces qualités qui sont très utiles pour les hommes. Enfin, un de mes boss avec qui j'ai travaillé m'a dit ce qui est fantastique quand on travaille avec une femme, c'est qu'elle elle ment jamais sur un chiffre. Et c'est tellement juste.
C'est drôle.
Et c'est tellement juste. Ne jamais mentir sur un chiffre, en fait, c'est créer la confiance. C'est-à-dire qu'un homme qui travaille avec une femme, il sait qu'il y a moins de chances d'avoir... Voilà, ils se sentent en confiance. Donc, je pense que les femmes et les hommes au sein de l'entreprise apportent tous les deux des choses différentes et que c'est important. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une forme de mixité. Mon codir, il est à moitié féminin, à moitié masculin. Et je vais chercher chez chacune des personnes ce qu'elle peut m'apporter.
Et face à une question que je pose régulièrement à tous mes invités, c'est comment tu réagis, toi, quand tu es face à un no-go dans ta carrière ? Tu as des années d'expérience dans différentes maisons, donc avec différents interlocuteurs et supérieurs. Comment tu réagis, toi, Hélène, quand on te dit non, on n'est pas d'accord avec ton idée ?
En fait, ça ne me pose aucun problème. Parce que je considère que je suis là pour faire des recommandations. Et j'ai un respect fondamental de la hiérarchie. Donc, à un moment donné, si mes boss dessinent que ce n'est pas le moment de le faire, c'est qu'ils ont probablement de bonnes raisons. En revanche, pour défendre mes idées, pour défendre mes idées, je suis une tigresse. C'est-à-dire que j'irai au bout du bout du bout du bout de la manière dont je vais défendre mes idées. Mais si à un moment donné, on me dit trois fois, parce que je suis très têtue, mais si à un moment donné, on me dit trois fois non, je comprends, je passe à autre chose. C'est pas un sujet pour moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours demandé à mes collaborateurs de faire pareil. Je leur demande de me challenger. Donc, je ne fais pas du tout partie de ces gens hiérarchiques. Je considère que leur valeur ajoutée, c'est de me faire réfléchir et donc de me challenger. Et en revanche, si à un moment donné, je dis non, on a pris une décision, on l'exécute en fait.
Alors, avec toutes ces années d'expérience dans le luxe, dans diverses maisons, tu es donc à la tête de Boucheron depuis 7 ans. C'est quoi aujourd'hui ta vision de la prise en considération des enjeux de la RSE dans ce secteur aujourd'hui, et notamment dans celui de la haute joaillerie ?
Alors, nous avons une chance, c'est que dans le secteur de la haute joaillerie, je dirais que la durabilité est au centre de toutes les stratégies, puisque par essence, nos produits ne se jettent pas. On ne jette pas un bijou avec des diamants, on ne gêne pas une montre. Vous l'offrez à vos enfants, qui l'offriront à leurs enfants pour la postérité. Donc, c'est pour ces raisons que je considère aussi qu'on a une responsabilité très importante en termes de RSE sur le fait que la manière dont on fait du business et la manière dont on fabrique nos produits soit aussi responsable. Donc ça, c'est le postulat de base et on a beaucoup travaillé sur ces sujets dans les 5 dernières années chez Boucheron. Le premier impact que l'on a en fait en tant que joaillier, à 70%, ce sont les matières premières que nous utilisons. Donc dès 2020, on a atteint 100% d'or responsable.
Ça veut dire quoi de leur responsable ?
Alors, leur responsable,
en fait, on connaît leur Fairmind.
Voilà, c'est deux types. On a 95% d'or qui est recyclé et on a gardé 5% d'or qui sont extraits de mines qui sont éco-responsables, qu'on accompagne dans leur capacité.
Des mines labellisées, ça veut dire ?
Exactement, Fairmind, Fairchild, etc. Donc, ce sont vraiment des mines labellisées. Et donc, c'est un gros travail qui a été fait. On a la chance d'appartenir au groupe Kering, qui est extrêmement investi sur ces sujets et du coup qui nous accompagne sur ces sujets. Donc on a une gouvernance même où très régulièrement j'ai des réunions, des points sur l'avancement de nos projets en termes de RSE avec Marie-Claire Daveux,
qui est directrice du développement durable
chez Kering. Donc on est très soutenu, très encadré dans cette démarche. Donc je parlais de l'impact en termes de matières premières, il y a l'or. Le deuxième impact, c'est forcément les diamants qu'on utilise. Et donc, les diamants, on a travaillé sur un projet qu'on a lancé début 2022, dont je suis extrêmement fière, avec une entreprise israélienne qui s'appelle Sarine, Sarine Technologie, et qui nous permet maintenant de garantir la traçabilité de la mine jusqu'à notre solitaire, de nos diamants de centre. Et nous avons travaillé un certificat boucheron, mais qui était un vrai step dans l'industrie, puisqu'en fait, tous les certificats, normalement, des diamants, comme vous le savez, sont le GIA, sont faits par le GIA, qui est un institut indépendant. Et moi, je considérais que c'était la responsabilité des marques d'apposer sur nos certificats notre nom en disant « Je vous garantis la provenance de notre diamant ». Et donc, en fait, c'est la première fois qu'on a fait un certificat boucheron, en plus qui est digitalisé, qui permet d'avoir accès à l'information complète sur l'ensemble de l'histoire des diamants que nous vendons. Voilà. Donc ça, c'était aussi une grosse étape. Le troisième sujet sur lequel nous travaillons avec toute la profession, puisqu'on a un groupe de projet, un groupe de travail multimarque, ce sont les pierres de couleur. C'est un petit peu plus compliqué, ça prendra plus de temps parce que ce sont des toutes petites mines qui sont disséminées dans énormément de pays différents. Donc pour que tout l'écosystème s'organise, ça prendra du temps. Voilà. Et sinon, après, nous travaillons aussi sur tous les sujets d'éco-responsabilité à l'interne dans l'entreprise, sur les économies d'énergie dans nos boutiques, sur comment travailler un concept éco-responsable sur le packaging, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres sujets qui vont en parallèle et qui sont d'ailleurs, et j'en suis très fière, poussés par nos équipes, en fait, par nos employés. Qui recherchent ce sens. Donc en fait,
Vos consommateurs aussi ou pas ?
Alors les consommateurs,
c'est assez particulier les clients.
C'est assez particulier et en fait les consommateurs pour le moment, nos clients, c'est pas quelque chose qui les concerne encore. Mais moi, je considère que c'est notre responsabilité d'avancer très fortement sur ces sujets et finalement de les accompagner parce que c'est le sens de l'histoire et à un moment donné, ils deviendront aussi très préoccupés par ces sujets.
Alors Hélène, je meurs d'envie de te poser cette question. Est-ce que tu as vu ce film forcément Blood Diamond de 2006?
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Blood Diamond, je l'ai vu, mais maintenant...
Et sur-revu.
Voilà, sur-revu. Non, mais ça date un peu, donc je l'ai vu. Je sais qu'à l'époque...
En 2006.
J'avais adoré ce film, que j'avais trouvé magnifique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans l'industrie un process qui s'appelle le Kimberley Process et qui est exactement défini pour garantir l'exclusion des diamants de la guerre de l'industrie de la joaillerie. Donc, il y a quand même un organe dirigeant qui est là pour garantir ça auprès de nos clients.
Alors, j'ai envie de te poser une autre question, forcément. Blood Diamond, le processus de Kimberley et surtout les diamants de laboratoire. Moi, j'ai interviewé plusieurs petites marques. J'aime, Courbet, j'ai même été dans un labo. Je crois que vous, chez Boucheron, vous ne faites pas le pari un jour de sortir une collection éco-responsable avec des diamants de laboratoire?
Alors pour l'instant, on n'envisage pas du tout ce sujet.
Et pourquoi?
Parce qu'on considère, je considère que on est chez Boucheron, la plus vieille marque française à être implantée sur la place Vendôme, la première marque de la place Vendôme. Et quelque part, on doit être les garants de ces diamants qui viennent de la Terre. Les diamants qui viennent de la Terre, c'est des diamants qui ont passé jusque 3 milliards d'années avant d'être extraits. Donc, ce sont des diamants qui sont produits par notre terre nourricière et on en est quelque part aujourd'hui le réceptacle. Donc, je ne vois pas l'intérêt, mais je ne dis pas que les diamants de synthèse ne sont pas un segment du marché, loin de là.
Est-ce que vous vous sentez challengé ou pas ?
Forcément, moi je considère...
Par toutes ces marques qui arrivent avec des solitaires, ces jeunes couples.
Je suis intéressée par... je ne fais pas partie des gens qui considèrent que des marques ne sont pas concurrentes. En fait, je considère que tout peut être concurrent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça stimule le marché. Et je pense que le diamant de synthèse est forcément un concurrent dans le sens où il nous demande de réfléchir. Néanmoins, mais ça c'est très personnel, c'est une conviction complètement personnelle, je pense que ce sera un segment de marché qui est en dessous de la joaillerie traditionnelle, puisque le diamant de synthèse commence à se positionner sur un marché beaucoup moins cher.
Et donc, parce qu'il y a moins de partenaires, non ?
C'est parce que le diamant lui-même est moins cher et que les maisons qui ont commencé à lancer des diamants de synthèse les ont lancés à un prix largement inférieur.
Intermédiaire, pas partenaire, pardon. Il y a moins d'intermédiaires dans la conception. Du coup, c'est pour ça que c'est ce que disent toutes ces marques qui lancent ces diamants de la
boîte. Je ne sais pas si c'est exactement... Ça, je suis incapable de répondre à cette question. Mais je pense qu'intrinsèquement, la fabrication d'un diamant de synthèse, en fait, et beaucoup moins coûteuse. Donc, ce sera un segment de marché qui est ce que j'appelle, moi, la custom jewelry, c'est-à-dire en dessous de l'équivalent d'un diamant, entre guillemets, authentique, qui vient de la terre et qui restera plus cher.
Intéressant d'entendre, en tout cas, ce point de vue. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type ? C'est quoi une journée type avec toi ?
Alors, des journées types, il y en a rarement.
Tu fais quoi déjà quand tu te réveilles ? Est-ce que tu as un rituel ou quand tu te...
Alors, quand je me réveille, c'est un litre de café. C'est ma priorité, mon urgence, c'est d'avoir mon litre de café pour me mettre on. Alors, la journée type, quand je suis à Paris, je prends le métro pour venir au bureau. Et que j'adore quand je sors à l'opéra, puisque je travaille à l'opéra, regarder d'abord les chevaux de l'opéra et me retourner voir Napoléon sur la colonne Vendôme. Et tous les matins, je me dis, t'as de la chance de travailler dans ce secteur. Enfin, je me sens chanceuse. Et je fais partie des gens qui sont, je suis heureuse le matin d'aller au bureau. En fait, ça n'est pas un poids, c'est une joie. Donc, je démarre ma journée en arrivant par récupérer les chiffres de la veille. Donc, j'ai quand même un côté très business. Donc, tout de suite... je vais récupérer les chiffres de la veille, comme ça je sais ce qui s'est passé. Je les ai boutique par boutique. S'il y a eu des belles ventes, je vais envoyer un petit texto, envoyer un petit message aux équipes qui ont réussi la vente pour les féliciter. Voilà. Et après, ma journée est faite d'un ensemble de réunions parce que j'ai créé une gouvernance qui me permet de piloter tous les sujets de l'entreprise, soit des one-to-one avec les membres de mon comité de direction, soit des comités où il y a beaucoup plus de gens, où on me présente des sujets sur lesquels je dois les driver. Et mes trois comités préférés, étant donné que je suis une créative contrariée, sont les comités pierres. Et j'en ai eu un hier, donc on achète les pierres. C'est-à-dire que les pierres arrivent. Et alors là, je suis comme une enfant émerveillée. J'arrive avec ma loupe dans ces réunions et on sélectionne les pierres qu'on va acheter pour Boucheron. Le deuxième comité que j'adore, c'est le comité création. Parce que là, évidemment, je signe tous les dessins. Toutes les créations sont signées par moi.
Tu n'es plus contrariée, du coup, maintenant.
Plus du tout. Plus du tout. Et le troisième...
Une créative assumée.
Assumée, voilà. Et le troisième comité que j'adore, c'est le comité que nous appelons Store Design and Planning. C'est ni plus ni moins qu'un comité où on dessine de la décoration de nos boutiques. Et donc là, c'est aussi un territoire de créativité parce que la décoration d'intérieur, c'est sans fin aussi. On choisit les tissus, les matériaux, la manière dont on va... et c'est un comité que j'aime énormément aussi. Voilà.
Parmi toutes tes rencontres, même sur le terrain, est-ce qu'il y a des rencontres, des parcours, des émotions, des personnes qui t'ont émue, qui t'ont touchée ?
Il y a deux personnes qui m'ont particulièrement touchée, mais là, c'est quasiment, je dirais, à titre personnel. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Bernard Fornas qui m'a fait venir chez Cartier et avec lequel j'ai travaillé pendant 17 ans. Et en fait, il m'a tout appris. Ce que j'aime chez lui, c'est son énergie et sa rage de vivre, en fait. J'ai beaucoup appris en le regardant travailler. J'ai énormément appris en le regardant travailler. Et il y a une deuxième personne qui me fascine, c'est François-Henri Pinault. Parce que je trouve que dans la vision, il a une vision incroyable qu'il a réussi à implémenter sur son groupe et il a réussi à faire switcher le groupe Kering vers un groupe de luxe en quelques années avec une vision extrêmement responsable justement sur des sujets, la défense des femmes, il a une fondation pour la défense des femmes, etc. Donc, tous ces sujets, moi, me touchent émotionnellement. Donc je me sens très en lien avec les valeurs du groupe et de François-Henri Pinault.
Comment tu arrives à gérer, à équilibrer ta vie pro et ta vie perso ? Quelles sont les clés, selon toi ? À gérer cette pression que tu as en étant dans un grand groupe, et tu parles de chiffres, en effet, puis d'un côté, te ressourcer, t'apaiser. Comment tu fais ?
En fait, je pense que c'est compliqué pour toutes les femmes qui ont un job pour moi. La première chose, c'est de se déculpabiliser. Et en fait, moi, j'ai réussi à me déculpabiliser en me disant que je suis tellement passionnée par ce que je fais et ça me rend tellement heureuse qu'une maman heureuse, elle va avoir des enfants heureux. Alors que si j'étais restée à la maison mère au foyer, ce sur quoi je porte aucun jugement, la moitié de mes amies sont mères au foyer et elles sont très épanouies, donc j'aurais peut-être été moins épanouie et donc plus casse-pied avec mes enfants. Voilà. Et mes enfants me disent
toujours... Tu es une maman cool, c'est ça, en fait.
Mes enfants me disent toujours, c'est une phrase qu'ils répètent, mais maman, on n'a pas l'impression que tu travailles, tu fais que t'amuser. Et ben oui, et d'ailleurs, je leur réponds, N'oubliez pas qu'il faut essayer de trouver un métier qui vous passionnera et comme ça, vous n'aurez jamais l'impression d'aller travailler. Ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une douleur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je suis convaincue que la qualité prime sur la quantité et qu'en fait, ce n'est pas le temps passé avec les enfants. Mais en revanche, quand je suis avec eux, je suis extrêmement présente.
Le week-end,
ouais.
Tu
ah, mais je suis à fond. Je coupe vraiment le week-end, je suis à fond avec eux. Et même quand j'ai des petits moments avec eux, j'aide mon deuxième à faire ses devoirs, etc.
Donc, quel âge tes enfants ?
Ils ont 19 et 16. Et maintenant, là par exemple ce soir, il est en première, mon fils de 16 ans. Ce soir, il est passé, à l'heure du déjeuner, il m'a dit « t'oublie pas, on révise ensemble le bac français parce qu'il a un oral de français demain. Je sais que j'ai ma soirée bloquée pour lui et on va réviser tous ses textes. Et quand je suis là, je suis vraiment là. »
Et un endroit où tu aimes te ressourcer, recharger tes batteries?
Alors moi, j'ai trouvé cet endroit-là et j'ai de la chance il y a une vingtaine d'années. Et heureusement que je l'ai eu, sinon je pense que je n'aurais pas tenu. C'est ma maison en Normandie. J'y vais tous les week-ends. Je suis cavalière, donc je monte mes chevaux là-bas. Et en fait, c'est mon moyen de me recentrer, de me reconnecter à la nature. Et je suis même sûre que je n'aurais pas tenu si je n'avais pas cet espace d'équilibre où mon énergie diminue pendant toute la semaine, les 5 premiers jours de la semaine. Mais je sais que le vendredi soir, je vais récupérer, recharger mes batteries. Le dimanche, je reviens, je suis en pleine forme. Et je pense que c'est vraiment lié à la connexion aux animaux et à la nature. Voilà.
Et quand tu es à la maison, tu es derrière le fourneau ou pas du tout?
Alors, oui, parce qu'en fait, je ne supporte pas qu'on mange des...
Qu'on me prépare à manger.
Non, j'adore. Alors, j'adore qu'on me prépare à manger, mais j'aime pas la junk food. Je veux pas qu'on mange mal, en fait. J'ai été élevée dans une famille où on a toujours pris soin de ce qu'on mangeait, mais les matières premières, depuis très longtemps, ma mère achète du bio depuis 40 ans. Enfin, donc, il faut que les premiers produits soient bons. Et comme je fais mes courses en Normandie tous les week-ends, je ramène tout à la maison, ce qui rend hystérique mes enfants, puisque le dimanche soir, on revient avec des sacs entiers. Mais je sais où j'ai acheté tous mes produits. J'ai mon petit maraîcher bio, etc. Et donc, je leur prépare les bons légumes de Monsieur Adam.
Le plat préféré que tu aimes préparer alors, et manger.
Un de mes fils, on adore le magret de canard. Il y a une ferme à côté de chez nous en Normandie où on va acheter des magrets de canard avec une bonne poêlée, par exemple en automne, de champignons du marché. Voilà, c'est typique. Donc, c'est simple. On dit toujours que j'ai le meilleur ratio temps passé en cuisine et gustatif parce qu'en fait, je fais des choses extrêmement simples à faire, mais avec des très bons produits. Et donc, à la fin, je pense que chez nous, on mange bien.
Quels sont tes futurs projets en 2023, pro et perso?
Alors, j'ai de nombreux projets, mais mon premier projet, c'est de continuer le développement de la Maison Boucheron, qui est vraiment c'est le job de ma vie. Je suis très heureuse de ce qui nous arrive en ce moment et du développement de la maison. Et voilà, et je veux continuer en 2023, dans les 5 prochaines années, on a réécrit un deuxième plan à 5 ans. Et là on démarre avec les équipes et donc c'est ma priorité de 2023 de lancer ce plan.
Combien de salariés tu as ?
Ce sont des chiffres que je ne peux pas donner.
Ah là 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 !
Désolée.
Et pour terminer, Hélène Pouliduquesne, la question la plus difficile. On ne regarde pas ses fiches, quelle est ta raison d'être personnelle ?
Alors, ma raison d'être personnelle, ça m'a fait plaisir quand j'ai lu cette question parce que je me suis dit, en fait, c'est une question très complexe. Et je me suis dit que ma raison d'être personnelle, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu. En fait, j'ai une notion de la réussite très particulière. Je ne considère pas qu'être... je suis très heureuse d'être PDG aujourd'hui parce que je peux prendre toutes les décisions pour la maison. Mais je ne considère pas que c'est quelque chose qui me donne un pouvoir. En fait, je considère qu'en revanche, ça me permet de raconter vraiment une histoire et de pouvoir redonner en fait à mes employés. Je les entraîne dans une grande aventure. Et je me suis dit, ma raison d'être personnelle, c'est ça, c'est ma vision du succès. Le succès, c'est de redonner.
Et tes enfants aussi,
tu exactement.
Parles de tes collaborateurs,
c'est aussi. Et de mes enfants, mais il y a un très grand parallèle dans la manière dans laquelle je gère l'entreprise et aussi mes enfants. Et mon rôle, c'est de les aider à suivre cette voie et à leur montrer surtout qu'on peut se développer en restant cohérent avec ses valeurs. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
Et dernière question, quelle est la vision de tes enfants du luxe ? Est-ce que ça leur parle aujourd'hui à 16 et 19 ans, les diamants, le luxe?
Alors ça leur parle énormément, mais je pense parce qu'ils m'ont vu dans ce secteur.
Ils veulent y aller ou pas du tout?
Oui, il y en a déjà un qui a fait un stage dans ce secteur. Qui est
donc
passionné.
Tu as réussi, alors, lui, tu as transmis ta passion.
Alors ça, ma passion, je l'ai transmise. Et le petit, à un moment donné, s'est passionné de gémologie. Il a une collection de pierres, trop mignonne. Il a une émeraude de 001 carats qu'il garde précieusement. Donc il a des petites boîtes avec... Donc oui, je pense que forcément, ils sont rentrés dans cette passion, oui.
Bien, merci infiniment, Hélène Pouli-Duquesne, pour ton temps, parce que tu es très, très prise. Merci infiniment
merci
d'avoir
beaucoup.
Répondu à mes questions et au plaisir, en tout cas, de se recroiser. Et on te souhaite une très belle continuation, personnelle et professionnelle. Et nous, on se retrouve très prochainement dans Patronne ou CEO, mais pas que.